Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour deux nouvelles émissions à Osons la philosophie avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour aux auditeurs, aux auditrices et à Sylviane.
Alors, vous aimez beaucoup, j'ai l'impression, Platon, puisque aujourd'hui, vous faites une autre série d'émissions à propos de la République de Platon, mais oui, sous un autre angle.
Oui, donc je vous propose une seconde lecture du livre 10 de la République de Platon, qui est un livre, si vous voulez, à la fin en tout cas conclusif, sur l'ensemble de l'entreprise. Je m'explique. L'entreprise, pour Socrate, consiste à tracer, mais c'est certainement une utopie. Il déclare lui-même qu'il n'est pas tout à fait sûr que tout soit réalisable. Il s'agit, pour Socrate, de tracer la constitution d'une cité. Alors, d'une cité, de la, ce qu'il appelle la belle cité, d'une cité qui serait conforme, si vous voulez, à l'ordre, à l'ordre, à un ordre ontologique, à un ordre tel que la vie de la cité, la combinaison ou la combinatoire des classes sociales se réfère à un plan idéal qui est au-delà de la connaissance sensible et qui en réfère à l'idée du bien, c'est-à-dire une forme pure, inaccessible à l'expérience sensible, parfaitement idéale, mais c'est d'elle dont découle toute la chaîne, si j'ose dire, des existences, et nous allons le voir aussi, des pratiques.
Alors, cette émission, ces deux émissions, vous les avez intitulées « Le différent entre philosophie et poétique ». Alors, le différent dans le sens... on n'a pas pris le mot « conflit », qui serait peut-être un peu brutal, mais « le différent », et vous allez nous expliquer justement... En quoi, dans cette cité idéale, la poétique n'aurait pas sa place ?
Dans ce projet.
Dans ce projet.
Dans cette esquisse. Pensons toujours que tout est susceptible de ne pas être totalement réalisable. Et surtout sur les trois points qu'avance Socrate, dont il dit lui-même, dont il déclare lui-même qu'il pose problème. Et qu'ils sont, d'une certaine manière, assez scandaleux aux oreilles, je dirais, des citoyens d'Athènes, de l'Athènes d'alors. Bien. Alors, en effet, Socrate avance trois propositions. Les philosophes doivent être rois dans la cité, puisque eux, précisément, ont ce regard porté vers l'idée, la forme idéale. Deux, la communauté des citoyens suppose que les femmes et les enfants ne soient pas en quelque sorte inclus dans des familles, mais circulent, avec justement l'idée assez insolite pour l'époque de la possibilité pour les femmes d'être philosophes, philosophes reines. Et enfin, la troisième proposition étrange, voire totalement aberrante par rapport au mode de vie de la cité grecque, et vous savez à quel point le théâtre, car il va s'agir de la poésie du théâtre, vous savez à quel point le théâtre joue un rôle structurant justement pour la démocratie grecque. On n'imagine pas la polis, la cité, sans cette cérémonie de communion des citoyens tous ensemble, en face de quoi ? En face des événements qui se déroulent dans la plus grande des intensités émotionnelles.
Et pourtant, dans ce livre, il dit qu'il faut exclure fait la poétique.
Oui.
Alors la poétique dans un sens large.
Oui, nous allons y venir. Donc le projet aussi scandaleux finalement, aussi disruptif, voilà. Ce projet totalement irruptif, qui est bien présenté comme tel, est de bannir, d'obtenir la mise au ban de la poétique. Alors, qu'entend-on par poésie ou poétique. Alors, poétique, ça évoque tout de même une création poétique. Mmh. La valeur de création n'est pas absente. Bien que, nous allons le voir, on n'évoque absolument pas une imagination créatrice qui serait à l'œuvre de la poésie. Mmh. Au contraire, et tout repose de la critique sur ça, au contraire, la poésie relève de l'imitation, d'autre chose.
Mmh. Oui, ce mot imitation, la némésis, vous allez en parler longuement.
Oui, alors l'imitation, c'est ce qui se dit en grec mimesis, et cela évoque une reproduction, mais une reproduction servile, d'une autre entité, d'une certaine manière. Le mot d'imitation, c'est resté d'ailleurs dans notre perception, a toujours une valeur négative. Mmh. L'imitation a quelque chose de dévalorisant. Pour toute une tradition philosophique, à l'encontre de laquelle s'élève Aristote. Parce que justement, il y a des différences, sinon un différent, entre Platon et Aristote.
Et pourtant, dans l'éducation, l'enfant apprend beaucoup par mimétisme aussi.
Oui. Alors nous reviendrons à la question de la relation entre l'action humaine et la nécessité de passer par une pratique mimétique. Mmh. Alors, je lis tout de suite.
Oui.
La lecture. Je vais quand même dire un mot. J'ai toujours la plus grande difficulté à lire des extraits des dialogues de Platon. Alors, pourquoi ? Les dialogues commandés par Socrate, ici son interlocuteur n'intervient pas sinon pour approuver ou marquer sa difficulté à comprendre, les dialogues de Platon sont rigoureux, mais leur conduction est extrêmement sinueuse. Mmh. Donc, il est très difficile de projeter, alors qu'il existe, ce que Descartes appelle un ordre des raisons.
Oui.
Voilà.
C'est pour ça que vous faites parfois des coupures. Enfin,
oui,
vous...
c'est très délicat. Oui. Hein. Lire Platon est très délicat. Il faudrait tout lire, ce qui n'est pas possible. Alors, je vous lis tout de même. Hein. Je vous lis tout de même le tout début. Bon. De quoi s'agit-il, ta proposition ? De quoi s'agit-il ? Du rejet absolu de cette partie de la poésie qui est imitative. Qu'elles doivent être désormais rejetées absolument. Avec toute la vigueur possible. Cela apparaît selon moi beaucoup plus clairement depuis que nous avons distingué et isolé les différentes espèces de l'âme. On y reviendra. Une remarque. Rejet absolu de cette partie de la poésie qui est imitative. Y aurait-il une poésie qui ne serait pas imitative ? Je l'ai trouvé dans le texte de Platon. Je continue. À vous, je peux le dire, car vous n'irez pas me dénoncer au poète tragique, qui sont d'actualité au moment où on parle Platon, et à tous ces autres poètes de l'imitation. Il me semble que toutes les œuvres de ce genre, déforment l'esprit de leur auditoire, à moins que ceux qui les entendent ne possèdent l'antidote, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'elles, ces œuvres, sont réellement. Alors là encore deux remarques. Ce dont il est question, c'est de la tragédie, mais nous allons voir que la tragédie est chef de file, c'est Homère. Le nom est prononcé immédiatement. Les auteurs tragiques, leurs œuvres, déforment l'esprit de leur auditoire. Alors nous allons voir que ce qui est en jeu, c'est précisément la sérénité ou au contraire le trouble de l'âme que provoquent les œuvres, essentiellement les œuvres tragiques. Et l'antidote, le contrepoison, eh bien, c'est la philosophie.
La philosophie, c'est voilà. Pour ça qu'il dirigerait la cité.
Voilà. Alors, je continue. À quoi penses-tu quand tu parles ainsi ? Parce que l'interlocuteur, Glaucon, il est présumé le frère de Platon lui-même.
Mais c'est très violent.
N'y comprend pas grand-chose. Alors, voici. Il faut que je le dise. Même si l'affection et le respect que j'ai depuis l'enfance pour Homère me font hésiter à parler, il semble bien, en effet, avoir été, lui, Homère, le premier maître est le guide de tous ces grands poètes tragiques. Mais le respect pour un homme ne doit pas passer avant le respect pour la vérité. Et donc, je l'ai dit, il faut parler. Homère. Alors, est en jeu rien moins qu'Homère. Homère qui était, l'instructeur, le maître de la Grèce, ne serait-ce que dans les petites écoles d'apprentissage des enfants grecs, des enfants athéniens. Pardon. Et depuis l'enfance, il y a toujours un lien entre l'enfance et cette poésie imitative. Depuis l'enfance, j'ai affection et respect pour Homère. Alors, philia, amour, hein, les mots grecs. Philia, amour. Aidos, respect, vénération. Donc, il faut pour Socrate aller à l'encontre, je dirais, de son sentiment d'affection et de respect pour Homère, pour conduire précisément son enquête critique de l'effet catastrophique de la poésie sur l'âme de ceux qui sont voués à être d'abord les gardiens de la cité, les philosophes rois. Le respect pour un homme ne doit pas passer avant le respect pour la vérité. Donc il faut parler. Quel que soit le prestige pour nous, et encore une fois, le pathos que l'on peut avoir pour lui, il faut dire la vérité.
Mais je pense, c'est pas la même chose que dans les régimes dictatoriaux où on interdit en fait le théâtre ou la poésie pour des raisons autres. C'est complètement différent.
Il y a une interdiction du contenu de certains poèmes ou de certaines tragédies, en particulier de la mythologie d'Hésiode, d'Homère et d'Hésiode, parce qu'elles contreviennent à l'idée du divin. Mais passons, c'est une autre question. La question n'est pas celle du contenu, en quelque sorte, si on peut isoler les choses. La question est celle du principe qui est à l'œuvre dans la poésie, c'est-à-dire le principe de l'imitation.
Alors, pour illustrer musicalement ces émissions, vous avez choisi Brahms. Alors, pourquoi, Françoise ?
Alors, j'ai choisi un musicien romantique, justement, pour rompre aussi avec tout ce qui va être dit, et de manière extraordinairement critique, à l'encontre la création et de la création poétique. Puisque la pensée romantique, en particulier la pensée romantique allemande, avec l'école d'Iéna, a mis en valeur, non pas l'imitation, mais l'imagination créatrice, comme s'il y avait une imagination métaphysique, hein, comme le dit le poète français, je vais revenir sur lui, j'espère.
Thank you.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Françoise Gernot pour continuer donc l'analyse de ces deux émissions que vous avez intitulées donc le différent entre la philosophie et la poétique.
Oui, alors avant de lire Platon, c'est-à-dire le déploiement de cette dialectique qui vise à critiquer fondamentalement ce que nous appelons la poésie mimétique, nous devons tracer en quelque sorte la ligne, les points de critique. Je disais que le dialogue est sinueux, mais il obéit tout de même à une série très précise de critiques qui parfois s'entrelacent. Alors la première est la suivante. La mimétique, la mimésis, consiste à imiter. Alors de quel ordre est la mimétique, l'imitation propre à cette poésie qu'il faut dénoncer comme telle? Alors nous verrons que Platon emprunte une image pédagogique, c'est-à-dire que l'imitation, elle consiste à se déployer en au moins en deux pratiques. L'une qui est celle de l'artisan et l'autre qui est celle alors, d'un personnage qui sert encore une fois de modèle à toute espèce d'imitation, qui est le peintre. Alors procédons point par point. Le deuxième argument critique contre mimétique et essentiellement la poésie donc d'Homère, c'est-à-dire la poésie qui concerne les actions héroïques et d'une certaine manière la tenue de la guerre et de la politique, car il y a du politique, par exemple dans l'Iliade. Hein. L'autre poète en jeu, c'est Hésiode en particulier, Hésiode, le déploiement par Hésiode de la généalogie des dieux, où les dieux se comportent d'une manière absolument effroyable. Et ce dont il s'agit, c'est de montrer en quoi Homère et sa suite ne peut en aucun cas, alors que c'est le principe conducteur de toute l'éducation grecque, nous venons de le voir, de l'enfant, alors qu'en aucun cas, Homère ne pourrait être l'instructeur de la Grèce, le maître des études grecques, athéniennes. Et le troisième point, le troisième point concentre la critique sur la poésie dramatique et essentiellement sur le théâtre. Alors le théâtre, avec les effets qu'il produit, les effets d'affect, comme dirait un philosophe d'aujourd'hui, ruine en quelque sorte l'équilibre, la sérénité de l'âme. Alors nous allons voir cela, ces trois points, au moins les premiers et le troisième en détail.
Alors je vous interromps juste quelques secondes pour expliquer le visuel qu'on a choisi, qui est la peinture de Van Gogh, la chambre,
alors,
la
nous fameuse allons voir
chambre
pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Pourrais-tu me dire, dit Glaucon, ce qu'est l'imitation en général? Tu as dit mimesis, imitation. Qu'est-ce que tu entends par là? Puisque c'est là précisément que se situe le point d'attaque contre la poésie. Eh bien, veux-tu que nous commencions notre examen en partant de ce point selon notre méthode habituelle? Nous avons en effet l'habitude de poser en quelque sorte une forme unique, chaque fois pour chaque ensemble des choses multiples auxquelles nous attribuons le même nom. Ou alors, ne comprends-tu pas? Donc, ici, Socrate, d'une certaine manière, ressaisit tout ce que nous avions lu, si vous aviez la patience de le suivre,
dans la précédente émission,
de l'émission précédente, c'est-à-dire du livre 7. En effet, Socrate montrait que les multiples choses qui nous apparaissent, qui apparaissent à notre sensibilité, à notre perception, eh bien, ces multiples choses relèvent dans leur concrétude, en quelque sorte, d'une idée, d'une forme pure, hein, qui, elle, est au-delà de cette expérience sensible et qui est de nature purement intelligible. Au-delà de ces idées, règne royalement, solairement, l'idée du bien. Alors, revenons. Nous avons en effet l'habitude de poser en quelque sorte une forme unique, hein, donc l'idée ou la forme. Chaque fois, pour chaque ensemble de choses multiples auxquelles nous attribuons le même nom. Alors l'indice qu'il y a de l'unité, c'est bien sûr le nom. Hein? Bon, par exemple, si je dis le lit, le mot lit subsume en quelque sorte tous les lits possibles et imaginables, hein? Conçus ou
réalisés.
Voilà, réalisés. Je comprends. Prenons donc, encore une fois, si tu le veux bien, l'un de ces ensembles multiples. Par exemple, tu es d'accord, il existe de nombreux lits, de nombreuses tables, oui forcément, mais les idées relatives à ces meubles, il n'y en a que deux. Une idée de lit, une idée de table. Élucidation, oui. Voilà qui est important. Or, n'avons-nous pas aussi l'habitude de dire que chacun des artisans qui fabrique ces meubles réalise l'un des lits, l'autre les tables, dont nous nous servons, le regard tourné en direction de la forme, et ainsi pour tous les autres objets. Car pour ce qui en est de la forme elle-même, sûrement aucun des artisans ne la fabrique. Comment le pourrait-il en effet ? L'artisan, bon, qui fabrique ou un lit ou une table. Alors, remarquez que les exemples donnés, les exemples pédagogiques sont triviaux.
Très fonctionnels, oui.
Oui, triviaux. Alors, ce sont des exemples triviaux. Nous ne sommes pas dans l'empiré. Hein. Nous sommes vraiment avec des lits, des tables. C'est pourquoi nous avons choisi justement
Van Gogh, la
chambre de Van Gogh. Bien. L'artisan, quand il fabrique le lit, tourne son regard vers la forme du lit. Nous dirions en termes modernes, le concept du lit. Alors, la différence entre l'idée de Platon et le concept chez nous, c'est que l'idée de Platon existe. Oui. Elle a une teneur d'être absolue. Alors que pour nous, le concept, comme le nom l'indique, c'est une formulation de notre esprit. Elle n'a pas d'autre, je dirais, densité que celle de notre capacité de comprendre et de proposer. Surgit bizarrement, il y a toujours des ruptures, c'est un peu abrupt, quelque chose de nouveau. Mais vois maintenant comment tu appelles cet artisan que voici. Or, cet artisan que voici, eh bien, il n'est pas proposé d'emblée. Il s'agit de deviner de qui il s'agit. Alors, de qui il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'un, je vais donc résumer, il s'agit d'un artisan prodigieux qui peut tout créer. C'est dans cela qu'il est profondément un homme de la mimésis, de l'imitation. Il peut tout créer. Hein ? Il peut tout créer. Non seulement il est en mesure de produire, je lis, tous ses meubles, mais encore produit-il les végétaux qui proviennent de la terre, il façonne tous les êtres vivants, les autres êtres aussi bien que lui-même, autoportrait, et en plus de cela, il fabrique la terre et le ciel, les dieux, et tout ce qui existe dans le ciel et tout ce qui existe sous la terre. Alors évidemment,
c'est qui
l'interlocuteur, ce nom, mais de quoi parle-t-on hein? De quoi parle-t-on? Étonnement de l'interlocuteur. De qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit du peintre. Hein, celui qui est capable, susceptible, ou qui prétend tout pouvoir créer, comme en un miroir, c'est le peintre. Or, le peintre, que fait-il? Eh bien, le peintre, D'abord, il imite, mais il ne fait que peindre des choses qui sont des fantasmes, hein, des phénomènes. Des fantasmes, des spectres. La nature de la peinture, c'est d'être spectrale. Le propre du peintre, c'est d'imiter, mais d'imiter avec une teneur de réalité moindre, qui est celle d'un ordre fantomatique. Alors les mots grecs sont très nets, hein. Il s'agit de spectre, il s'agit de fantôme. Alors je précise encore que spectre et fantôme hantent quand même toujours la pensée philosophique. Ils ne sont pas rien. Ils ne sont pas personne. Voilà. Alors, revenons maintenant à au déclin, je veux dire à la descendance, au déclin, à partir de l'idée. Toujours le modèle du lit. Je lis. « Veux-tu maintenant, repris-je, qu'en nous référant à l'exemple de ces objets fabriqués, nous poursuivons la recherche pour saisir ce que cet imitateur peut bien être. » C'est-à-dire la nature du geste pictural. Car il s'agit toujours de pratique. Pratique de l'artisan, pratique du peintre. Comme il te plaira, dit-il. Eh bien, ces lits constitueront trois lits distincts. Le premier est celui qui existe par nature, celui qui, selon ma pensée, nous dirions, est l'œuvre d'un dieu. De qui pourrait-il s'agir d'autre ? Donc, l'idée, l'idée, elle est d'origine divine. Personne, je pense, ne contestera. Le deuxième lit est celui que le menuisier a fabriqué. Il est imitation, bien sûr, de l'idée. Et le troisième lit est celui que le peintre a fabriqué, n'est-ce pas ? Oui. Ainsi donc, peintre, fabricant de lits, Dieu, voilà les trois qui veillent aux trois espèces de lits. Le Dieu a produit une idée unique, puisque précisément l'idée unique, c'est elle une rencontre de la multiplicité, le divin. Bon, ensuite le menuisier a produit un lit, je dirais, concret, mais sous un aspect précis. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le lit en tant que tel que produit le menuisier, c'est tel ou tel lit suivant tel ou tel commande.
Les styles, voilà.
Voilà,
ouais.
Voilà hein, quand nous commandons un lit, bon, nous ne commandons pas le lit ou la forme idéale du lit. Et enfin, tu appelles donc imitateur, dit l'interlocuteur, Glaucon, tu appelles donc imitateur l'auteur d'un produit qui se tient au troisième rang par rapport à ce qui existe par nature. Alors, nous savons, il y a un déclin, en quelque sorte. Hein, ce qui est en question, c'est le déclin de la mimétique, hein, de la forme, à la mimétique pure. Et ce déclin, il suppose que toute imitation, dire picturale, mais c'est le modèle, mais poétique, relève d'une teneur d'existence qui est de troisième rang.
Merci Françoise et nous nous retrouvons très bientôt pour continuer l'analyse dans la deuxième émission, le différent entre philosophie et poétique. Merci.